48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième magazine de 48 FM. Je vous rappelle en deux mots comment ça marche. Trois invités, un contradicteur aussi, c'est nouveau, c'est la nouveauté de ce magazine de cette semaine.
Ouais, ça Nicolas a déménagé.
Voilà, qui est là. Donc trois parties, trois invités, des rubriques en fonction des personnes autour de la table, une chronique ou une actualité, et puis des temps de débat. Et c'est en direct de la Place au Blé ce midi, et ça sera rediffusé jeudi à 18h11. Au sommaire aujourd'hui, alors une double page association et gastronomie avec la reprise des activités de l'association des Sarmentelles et plus largement sur l'actualité du vin, cette période de vendange, de foire au vin. Donc ça sera avec Guy Saleil des Sarmentelles. Il y aura aussi une page culture avec, sur la saison culturelle de Marvejol avec Thierry Arnal, le directeur du théâtre de la Mauvaise Tête. Et une page liberté, égalité, citoyenneté, c'est un peu un thème vaste, mais sur un sujet assez complexe, mais qu'on va quand même essayer de traiter, qui est l'aide aux tuteurs familiaux. Voilà, et ce sera avec Romain Vidal de l'UDAF.
48 FM Le Mag.
On commence ce magazine avec donc Guy Saleil de l'association Les Sarmentelles. C'est sur la reprise des activités donc de l'association. Alors comme je le disais en introduction, c'est la période des vendanges, c'est la période aussi des foires au vin, et puis c'est la période aussi de reprise des activités associatives. Donc voilà, Guy Saleil, je crois que vous êtes vice-président de l'association, c'est ça ?
Oui, bonjour tout le monde. Effectivement, je suis vice-président de cette association qui arrive sur ses 5 ans maintenant. Une association, on peut peut-être la présenter un petit peu.
Mais voilà, tout à fait.
Qui a été créée à l'initiative de Alain Bertrand, sénateur-maire de Mende, et donc maire à ce moment-là de la commune de Mende. Effectivement, c'était un projet qui me tenait à cœur, parler un petit peu des vins dans l'ensemble. Et puis, il a souhaité qu'on aborde profondément donc tout ce qui était griffé sud de France, pourquoi pas, passionné, et dans l'association c'est très intéressant parce qu'on a pu rajouter des gens passionnés là aussi, Marie Molina, mais plein d'autres personnes, et on regroupe à peu près une trentaine de gens qui sont là de façon régulière. Sur les dégustations on tourne entre 25 et 30, et puis le forum des vins où on monte jusqu'à plus de 50 bénévoles.
Alors quelles sont les activités finalement régulières de l'association?
Alors l'association, en fait, elle a pour vocation de présenter, de sensibiliser les gens à la consommation du vin, à la découverte. On voit le vin comme un plaisir, un partage.
Donc, avec modération quand même, Guy.
Oui, on évite de trop la prendre aussi parce qu'elle consomme beaucoup. Et ça, c'est un clin d'œil. Oui, effectivement. D'ailleurs, on n'est que des adultes au sein de cette association. Mais je veux dire par là, l'intérêt, c'est quand même de faire une approche du vin assez ludique. Autrement que par les formes de concours avec un vocabulaire très approprié, etc. Ce n'est pas le but du jeu. Quand on va se retrouver devant un rayon de vin, on a envie de savoir qu'est-ce qu'on va acheter pour partager avec ses amis, que ce soit quelque chose qui ne soit pas trop cher, qui ne soit pas ridicule, qui s'accorde au mieux. Voilà. Donc la vocation de l'association, c'est sensibiliser les gens à cette consommation-là, leur apprendre effectivement à reconnaître des vins, à les apprécier, partager ce plaisir-là, mais également les acquérir, les conserver et puis les associer avec toute la cuisine qu'on peut avoir chez soi et en fonction des saisons. Et ensuite, ne pas passer à côté des bonnes affaires. Les bonnes affaires, on le voit, à la relance du vignoble sur la Lozère. Là, il y a des petites merveilles à découvrir, avec Abritel, par exemple, et d'autres encore. On peut citer des noms. Hein.
Oui,
on va rassurer. Voilà.
Après, on envoie juste la facture après.
Oui, mais là, on ne prend pas trop en charge. Hein. l'association a un rendez-vous régulier. C'est une fois par mois, tous les premiers vendredis de chaque mois. On se retrouve à la salle du Cerf, à place du Foirail à Mende. C'est aux environs de 18h30, et puis là, ça dure autant qu'on a besoin de laisser durer cette rencontre. C'est un peu l'auberge espagnole autour de vins, et en général, on présente trois vins différents. Trois vins différents, mais qui ont tous quand même un lien très proche et direct avec le Languedoc-Roussillon. Voilà. Et après, bien sûr, le rendez-vous immanquable, et c'est le but de l'association, c'est la tenue du Forum des Vins. C'est une grosse manifestation sur la place de Mende, où là, on va retrouver donc une cinquantaine de producteurs venus du Languedoc et du Roussillon pour là aussi partager le plaisir de leur métier et puis les difficultés aussi, nous expliquer un petit peu pourquoi ils travaillent dans ce milieu-là et présenter tous leurs produits.
Et ça a lieu pendant la période estivale,
voilà,
c'est ça?
Voilà, c'est toujours en début d'été. Et l'intérêt, c'est également de rapprocher un public justement d'un producteur, d'un viticulteur qui, lui, n'a pas forcément ses références dans les supermarchés ou etc. Bon, il faut du vin pour tout le monde, il faut du travail pour tout le monde aussi, mais l'intérêt, c'est aussi de donner un tremplin à la communication pour ces jeunes producteurs.
D'accord. Il y a aussi un prix, je crois, à l'occasion de ce Forum des vins, non?
Alors, il n'y a pas qu'un prix ici. Bon, moi-même, j'interviens sur d'autres concours des vins, mais ce n'était pas du tout l'intérêt de reproduire ce que je connais ailleurs. C'était également donc d'arriver avec une approche tout à fait ludique, je le disais tout à l'heure. Conclusion, on a créé un concours des vins qui vient d'être agréé, bien sûr. On a la possibilité de décerner trois récompenses par trois familles. La famille des vins pays, les IGP notamment, les vins pays, voilà, de production au pays d'Aube. Ensuite, deuxième famille, les AOP ou les IGP, puisqu'on connaît très bien. Hein.
Et ensuite, ça veut dire quoi IGP?
Identité géographique protégée, c'est un peu les AOC, les appellations d'origine protégée hein, qu'on connaissait. Et après, bien sûr, on travaille sur les vieux millésimes, puisque en Languedoc-Roussillon, on a quand même des vins qui vieillissent très bien. Et qui prennent bien sûr de bons reliefs.
Alors, justement, ces vins du Languedoc-Roussillon, comment s'annonce ces vendanges 2012, quels vont être les vins de l'année prochaine finalement?
Alors,
on va pouvoir déguster à partir de l'année prochaine.
Voilà, on s'est aperçu que cette année, le ministère de l'Agriculture nous faisait des annonces qui n'étaient pas très cohérentes avec la réalité. Effectivement, le printemps a été assez frais, pluvieux, donc une très mauvaise approche pour une vendange. Déjà, on savait que 2012 serait en perte sur la production. Pour vous donner une idée de capacité, l'année dernière, la France a dû négocier à peu près dans les 52 millions d'hectolitres, et cette année, au niveau national, ça va tourner à peu près à 42-43 millions. Le Languedoc-Roussillon, lui, beaucoup plus intelligent, a su faire une bonne reconversion, un bon suivi de ses vignes, n'a pas trop souffert de ce mauvais printemps. Donc ici, on estime une perte à peu près à 8% cette année, 8 à 12% en fonction des terroirs. Puisque je le rappelle, le Languedoc-Roussillon, plus vieux terroir de France, mais le plus étendu. On va partir quand même depuis les terres de Sommières, les Costières du Gard, etc., pour aller jusqu'au-delà de Collioure. Hein. Donc ça fait une grande diversité. Effectivement, les corbières vont tirer une belle épingle de ce jeu cette année. Mais oui, on aura des vins qui seront en perte de vitesse, tant sur la production, que la quantité, que sur la qualité. Et d'autres qui, eux, par contre, vont fleurir.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est que c'est pas seulement un problème de production et de volume. Encore faut-il après les écouler, mais ça, c'est un autre problème. C'est aussi le problème de la qualité, puisque pendant de nombreuses années... ces vins n'avaient pas une super réputation. Depuis, c'est vrai qu'il y a eu cette politique de gestion de ces vignobles. On assiste quand même à un retour en force des vins du Sud, qu'on appelle les vins du Sud, hein, de façon générale. Et ça, je pense que c'est une bonne chose.
C'est une très bonne chose, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire un petit peu d'historique aussi. Il faut voir que la société a énormément évolué. Avant, on faisait un vin pour des personnes qui avaient les moyens de se l'offrir, puis le phylloxéra est arrivé, l'oïdium, etc. Et quand on a vraiment pris conscience que les vignes pouvaient être une véritable économie pour un pays, dans les années 40, on s'est mis à faire de la production tout azimut, ce qui fait que ça a duré jusqu'à les années 80, 85, à peu près 90. Une véritable prise de conscience, c'est à ce moment-là qu'elle a été faite. Donc là, on s'est dit, bon, mais puisqu'on n'arrive plus à écouler, on tourne sur 2 ans, 3 ans de réserve. On ne peut pas garder ça, ça coûte trop cher. Et de toute façon, les produits s'abîment, parce que là aussi, c'était des vins qui vieillissaient très mal. Donc c'était des vins de coupage. Ce n'était pas une bonne solution pour le marché. Le marché n'attendait pas ça. Et en plus, cette société était en évolution. Elle a tendance à aller vers des produits de qualité, du labellisé. Et puis la consommation est freinée maintenant.
En gros, à l'époque, on buvait de la piquette, maintenant on commence à boire du vin, c'est
avant,
ça?
Avant, on buvait pour boire, aujourd'hui on boit intelligent, on partage, on apprécie.
Ah, c'est une belle formule, ça.
C'est un beau patrimoine. Mais en fait, le vin, c'est un patrimoine aussi, et il faut quand même ne pas perdre de ça de vue. On dit, je vais prendre quelques noms, le Jurançon, c'est le vin d'Henri IV, etc. Donc vous voyez, on rapproche tout ça. Toutes les côtes pézenasses, c'est Molière qui les présente. Bon. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'au travers de l'histoire, on va avoir un rendez-vous aussi avec une culture gastronomique et une culture viticole. Donc c'est important aussi pour des régions comme nous de la mettre en avant, parce qu'on n'a pas que la mer ou la montagne à vendre. On a aussi nos produits, nos châtaignes, nos cèpes, mais aussi notre vin. On a aussi notre savoir-faire. C'est quand même intelligent de leur part d'avoir accepté de faire de l'arrachage en masse pour arriver à une certaine qualité, une bonne prise de conscience, structurer l'outil derrière, parce qu'il fallait quand même aussi qu'on ait des vignes, des déchets qui soient à la hauteur pour pouvoir travailler ceci. On s'est aperçu que ça avait un coût exorbitant, donc beaucoup n'ont pas pu suivre. Par conséquent, pour continuer à produire sur des terres de famille, ils se sont regroupés en coopérative, les résultats sont quand même pas mauvais. Bien au contraire.
Et sur l'export,
aujourd'hui, en France, l'exportation des vins, ça représente l'acquisition d'à peu près la valeur de 154 Airbus. Donc on s'aperçoit que c'est une économie qui est particulièrement importante. Le Languedoc-Roussillon est une des régions à exporter le mieux et avec une marge d'exportation la plus raisonnable, mais la plus rentable. Donc ça veut dire qu'en plus de l'exportation, ça ne suffit pas d'amener du produit à l'extérieur. Il faut aussi que ce produit-là rapporte quelque chose. Donc on vend un produit, oui, on a une marge dessus, oui, mais aussi on fait venir les gens pour nous acheter autre chose. Donc en fait, c'est un petit peu un fer de lance, ce vin. C'est pour ça que tous ces paramètres sont à prendre en considération dans la production du Languedoc. Les vins de Loire, ce sont des vins qui se vendent un petit peu, on prend le carnet de commandes, on remplit une case, etc.
C'était vrai, ça allait quand même beaucoup moins.
Aujourd'hui, la concurrence est présente, il va falloir aussi qu'ils sachent ce qu'ils produisent.
Oui, parce qu'on a su aussi exporter nos compétences, c'est-à-dire que maintenant, on fabrique du vin un peu partout dans le monde,
oui,
quand les conditions sont bonnes, mais globalement... Entre le Chili, l'Argentine, on en fabrique en Chine, on en fabrique partout quand même maintenant.
Oui, mais on en fabrique partout avec quel savoir ? C'est le savoir français d'abord quand même.
C'est ça, ce qu'on a exporté, tout à fait.
Mais avant, les gens qui produisaient du vin, c'était presque par défaut. Tu as été mauvais à l'école, tu n'as pas fait tout vif, tu n'as pas fait etc. Donc tu vas prendre le domaine familial et tu vas produire. Tu vas produire sur 4-5 hectares, tu vas produire ce que tu arriveras à faire, point. Donc... il n'y avait ni un souci de qualité, ni un souci de véritable progression et d'ouverture. Aujourd'hui, tous ceux qui reprennent un domaine fondent des écoles d'œnologie, suivent quand même des formations qui leur donnent une image de ce que le marché attend aujourd'hui et va l'attendre dans 10 ans. Donc ils sont prêts à une conversion, voire pour quelques-uns une reconversion aussi. Donc tout ça, c'est quand même intéressant à noter, c'est qu'on n'est pas dans une industrie figée. Une production figée, comme par exemple, on est boulanger, on connaît tous les mécanismes pour fabriquer, mais est-ce qu'il y a une prévision à long terme ? On ne sait pas. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nos vins commencent à être trop riches en degrés, donc on s'achemine sur des cépages qui, eux, vont être beaucoup plus rustiques, si on peut dire, pour essayer de diminuer justement ces degrés-là. Tous les Côtes-du-Rhône, ils sont à 14-15 degrés. Les Languedoc, on commence justement à monter un peu trop en degrés aussi. De l'autre côté, on nous dit qu'il ne faut pas boire, parce que si vous conduisez, parce que ceci, parce que cela. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas non plus savoir ce que le temps va vous proposer demain. S'il fait un grand soleil pendant tout le mois de juillet, tout le mois d'août, vous aurez forcément un vin riche à la sortie. Donc il faut aussi quand même tenir compte de tous ces éléments-là. Par conséquent, c'est là que l'INRA va jouer son rôle. Ils vont créer des cépages qui vont pouvoir peut-être...
Donc l'INRA, c'est l'Institut
National de la Recherche Agronomique.
Voilà. Je vois que j'ai affaire à des compétences.
L'INRA.
Et tout récemment, pour vous donner un exemple de leur rôle, c'est eux qui ont créé le dernier des cépages qui a été utilisé, notamment dans la replantation du vignoble de la Lozère, sur Ispagnac, le Villaret, voilà. Ils ont créé le Marcelan. Le Marcelan, c'est un cépage un petit peu rustique, où on a quand même une souche de Carignan dedans. Mais c'est un cep qui n'est pas très délicat, il va mettre très peu de temps à s'adapter au terrain, donc ça va se mettre sur un terrain très, très aride, très sec,
pauvre, en général.
Pauvre, voilà, et surtout un terrain de coteaux. C'est un vin qui va mûrir assez vite, mais sans être dans les premiers. Les Merlots, ce sont les premiers à être récoltés en rouge, bon, mais le Marcelan va arriver 2-3 semaines après.
Donc ils ont fait un gros décépage adapté au territoire et... Et j'entendais même dire que certains cépages peuvent être même cultivés en altitude, c'est ça ?
Alors ne rêvons pas non plus. Effectivement, il y a des cépages qui sont prévus pour être cultivés, notamment en Argentine, mais ce sont quand même des hybrides, ce sont des choses comme ça. Moi, j'essaie de rester traditionnel, je ne suis pas non plus le porteur de la viticulture bio. Je suis par contre à prêcher surtout pour l'agriculture raisonnée, parce qu'à un moment, on faisait tout dans tous les sens.
Durable.
C'était ridicule. Et aujourd'hui, il faut qu'on commence à être responsable de ce qu'on va mettre dans son terrain, et surtout aussi pour les générations qui vont monter derrière. On est capable, avec cette réflexion-là, de produire du produit, d'amener du produit de qualité sur le marché. Donc faisons-le. On a des compétences, l'INRA, etc. Utilisons-les au mieux. Et c'est ce qui se passe. Et intelligemment, on a donc deux domaines qui ont pris forme sur la Lozère. Et moi, je félicite tous les gens qui ont pu intervenir sur cette implantation-là. Et aussi, je félicite les viticulteurs parce que encore samedi, j'étais avec un groupe d'amis des Sarmentelles sur les lieux. On a pu voir un petit peu l'évolution. C'est un travail de vrais professionnels, de vrais œnologues. Ils font la vinification eux-mêmes dans la petite cave d'Ispagnac. Ils ont peu de moyens, mais avec ça, ils font des petits trésors. Donc, voilà.
Ça donne quoi alors, en goût ?
Alors, en goût, ici sur la Lozère, on est quand même sur 5 cépages différents. Pour les blancs, on est en Sauvignon et on est en Chardonnay. Et puis en rouge, on va allier du Pinot Noir, on va allier donc le Marcelin. Et puis, mon cépage favori, la Syrah. C'est la Syrah qui donne l'identité du Languedoc.
La couleur.
C'est un petit violet profond, aubergine, très, très limpide. Bon, beaucoup de transparence.
Et ça reste alors, un peu en bouche.
C'est incomparable, saveur de violette que l'on va avoir. La Syrah, en plus, donne beaucoup de structure dans ce vin et va laisser les tanins s'arrondir. Donc, voilà. Donc la Syrah, d'ailleurs, on la retrouve en support dans les vins OCAOP. On va retrouver
les Corbières, tout ça. Ouais.
Oui, mais tous les Languedocs. Tous les Languedocs ont utilisé ceci. Pour les vins blancs, alors cette année, ben, je pense que ça ne sera pas une année très, très, très bonne, malheureusement. Ça se comprend parce que les vendanges, c'est quand même les premiers vins à être récoltés. J'ai goûté les Sauvignons, à mon avis, dans les gorges, ils vont être intéressants, même très intéressants. Les Chardonnays, je suis désolé de blesser beaucoup de personnes, d'auditeurs, mais pour moi, les Chardonnays, c'est un très bon cépage, mais il est un peu trop générique. On en cultive aussi bien dans le Jura, oui, dans le Languedoc ou ailleurs.
Ça perd un peu d'identité. Ouais.
Voilà, c'est du générique, donc c'est toujours un bon résultat à la sortie, mais il n'y a pas une véritable carte d'identité sur la table ou dans le verre. Par contre, c'est vrai qu'avec du Sauvignon, déjà, on va révéler un petit peu notre terroir. Je regrette un peu que le Viognier ne puisse pas être introduit plus en arrière-pays vers chez nous, parce que là, on aurait quelque chose d'excellent dans des vins beaucoup plus ronds, beaucoup plus souples. Peut-être à marier avec des foie gras ou après, voire également avec des gâteaux au chocolat, par exemple.
Alors justement, on va faire le lien avec la gastronomie. Là, on rentre dans une période de cuisine automnale avec les champignons, avec un certain nombre de mets un peu spécifiques à cette période de l'automne. Alors, quels sont vos conseils pour accompagner ces plats d'automne en termes de vin ?
Alors, moi, je pense que déjà, le premier des conseils, c'est que les gens prennent le vin qu'ils ont envie de boire. Surtout s'ils l'ont déjà dégusté. Il ne faut pas avoir honte de servir le vin que l'on aime, parce que c'est bien de ce que l'on aime qu'on parle le mieux. Bon, après, à côté de ceci, il est évident que si vous faites un repas un petit peu léger, style omelette, même s'il y a des cèpes ou autre, peut-être un petit vin fleuri, un petit vin rapide, ça sera très bien. C'est pas la peine non plus de se lancer dans des choses à couper le souffle. Et de toute façon, le repas ne va pas suivre, donc ce n'est pas la peine. Par contre, pour les chasseurs, on va peut-être faire un petit tour du côté des Corbières, parce qu'il y a de très très belles choses. Et alors, une parenthèse sur les Corbières, le 4 qui faisait ses vendanges en vin rouge actuellement, les a suspendus depuis, a encouragé ses viticulteurs à les suspendre depuis samedi, et à les reprendre qu'en 4-5 jours, parce que ça laissera justement à le 4 et tout son environ le temps, autant de donner plus de richesse aux raisins, et beaucoup plus de richesse après dans la longévité du vin. Voilà, ça c'était la parenthèse sur le 4. Donc intéressez-vous à ce vin-là. Je pense qu'il sera très bon cette année. Après, pour évidemment les chasseurs, tous ces vins qui sont un petit peu plus riches.
Enfin, les chasseurs et les femmes de chasseurs et les enfants de chasseurs.
Et puis les amateurs.
De avec du gibier, aussi. Quoi. Enfin, voilà.
D'accord, les gens qui aiment le gibier, quoi. Moi, je ne suis pas chasseur, mais j'aime bien le gibier.
Nous, on aime bien les fricandos et tout ceci ici, et on peut très bien les associer avec des costières de Nîmes. Voilà, on n'est pas obligé non plus de suivre un régime, rien que par saison, quand même. Voilà.
Il me semble que dans mon entourage assez proche, tout ça, on a l'impression que le vin revient en force par rapport à quelques années. Est-ce qu'on peut le cibler Est-ce que c'est un effet de mode actuel? Est-ce qu'il y a des émissions de télé qui ont servi le vin comme ça ou c'est là en continuité, ou c'est parce que la qualité justement est revenue qu'on reparle beaucoup comme ça du vin?
Alors, je trouve que c'est une très très bonne remarque, parce que moi je dirais pas ou, mais je dirais et. Et parce qu'effectivement, il y a eu une prise de conscience du vignoble, du travail, de la pénibilité, du rendement possible, de la marge que l'on peut faire là-dessus, un effet de mode aussi. Puis toutes ces émissions de cuisine que l'on voit sur les télévisions ont enrichi notre connaissance. Donc c'est vrai que lorsque l'on se trouve avec une belle dorade, etc., on a envie de mettre ce qu'il y a de mieux pour l'accompagner. Donc c'est tous ces facteurs-là conjugués qui vont permettre aux gens de découvrir quelque chose. Mais en plus, on s'aperçoit avec un peu de recul que finalement, à prix quasiment égal, on peut s'offrir quelque chose de très bien. Et pourquoi s'en priver ? Ensuite, les alcools forts, je ne les nommerai pas, mais vous les connaissez mieux que moi. Ce sont des alcools, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. On ne peut pas les partager, je veux dire. Même un apéritif à 45 degrés, il va avoir le même goût chez l'un et chez l'autre. Tout dépendra de la quantité de glaçons ou d'eau que vous allez mettre avec. Par contre, le verre de vin, quand moi je vais le remplir à un tiers pour vous et pour moi, il aura les mêmes références à l'intérieur. Vous, vous allez l'exprimer avec vos mots et moi avec mes mots et mon recul. Donc c'est ça aussi, ça va permettre de s'enrichir et vous et moi, aussi bien sur cette découverte, et nous faire prendre conscience qu'on a là quelque chose qui a été travaillé, qui n'est pas un standard, qui n'est pas une sortie d'usine.
Par contre, vous avez dit quelque chose très intéressant, c'est boire le vin qu'on aime. Parce qu'on voit souvent les gens qui se bloquent un peu, je vais faire ça, qu'est-ce que je peux boire avec ?
Ben exactement, parce que je trouve que c'est quand même un peu dommage de... Je crois qu'à un moment aussi, on avait fait un petit peu ceci pour dire la haute cuisine se marie qu'avec des hauts vins. Donc, en fait, c'était réservé à une élite. Moi, je ne partage pas du tout cet avis-là. Je le répète, je l'ai dit au début et je le répète encore, le vin, c'est un produit à partager. À partager avec les gens de niveau avec lequel on évalue qu'ils sont compétents. Je veux dire, si c'est quelqu'un qui ne connaît rien en vin, ce n'est pas la peine de lui mettre un château week-end dans les mains. Voilà. Mais après, de l'autre côté, nous, on a une palette tellement ouverte ici qu'on trouvera forcément ce qui va faire le plaisir de tous. Au début, quand moi j'ai parlé des premiers Pixel-Loup, les gens me disaient « Ouais, mais Pixel-Loup, c'est quand même cher, etc. » Non, c'est pas vrai. Moi, je suis allé au Roque des Hortus. Franchement,
mais c'est quoi,
Marquis des Ors, ouais. C'est un vin blanc que tout le monde peut s'offrir. Et aujourd'hui, sur une table, ça a de la tenue, c'est bien, quoi. Ce sont des produits qui vont se vendre à 7-8 euros la bouteille.
Si on veut se donner là quelques repères, par exemple, parce qu'on parle comme ça de ce qui serait bon, de ce qui serait pas très cher ou qu'on peut s'offrir, c'est, pour vous, c'est quoi ? Un vin, un vin pas trop cher qu'on pourrait boire voilà, le week-end avec un bon plat ?
Il y a peut-être quand même trois choses à prendre en compte. C'est, est-ce qu'on veut un vin pour boire tout seul et à ce moment-là, on suffit au bag-in-box classique et je ne tendrai pas dessus ? C'est du vin qui peut être de qualité, mais ça n'a pas de présentation, on n'a pas le plaisir d'ouvrir.
Bag-in-box, donc c'est un...
C'est un réserve à 3,
d'accord,
5 litres, c'est
un cubi. Un petit cubi, voilà.
Voilà. Bon, ceci dit, à l'intérieur, on a quand même des produits de qualité. Hein, parce que du fougère comme ça, c'est quand même du fougère. Hein. Ils ne vont pas tricher non plus sur la qualité. Je crois qu'après, il faut aussi savoir si on est plus orienté sur des vins blancs ou sur des vins rouges. Quel est le...
Et là, il n'y a pas des règles, par exemple ? Avec ce qu'on mange, parce que souvent on nous dit, enfin je me fais un peu l'avocat du diable, mais souvent on nous dit, avec la viande c'est du vin rouge, avec le poisson c'est du vin blanc. Est-ce que ça ce sont de vraies règles ou est-ce que on peut les transgresser, que c'est vraiment une question de personnalité de personne ?
En fait ça n'a jamais été une règle, je crois que ça a été un peu des tons qui ont été donnés par quelques gens assez influents et suffisamment influents pour imposer, mais je défie toute personne de faire une bonne dégustation de Cabecou par exemple, puisque c'est très cévenol. Donc du fromage de chèvre avec un vin rouge, franchement, c'est mauvais. Ça vous coupe toutes les saveurs. Votre palais est anesthésié, vous n'avez aucun retour. Essayez de découvrir ça peut-être avec un tout petit sauvignon et un vin blanc. Et là, vous allez vous rendre compte que oui, enfin, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire associer les vins avec ce que l'on déguste.
Donc là, vous nous parlez en fait d'éducation au goût en général, quoi. C'est plus ça.
Il ne faut pas non plus imaginer que ça a une forme très scolaire. Il faut aussi aller vers ce que l'on aime. Et je vous rejoins tout à l'heure. C'est un peu dommage de rester figé sur des règles comme ça. Mais on dégustera des poissons de rivière avec d'excellents petits vins rouges. Voilà, il faut accepter ceci, mais il faut aussi soi-même être convaincu de ce que l'on va associer.
Vous nous avez beaucoup donné envie de
Milo à la bouche, enfin oui, le vin à la bouche.
Oui,
en fait.
C'est ça.
Moi, j'espère qu'on va voir alors au Sarmentel.
Mais voilà, et donc le premier rendez-vous, vous avez dit le premier vendredi du mois, c'est ça ?
Donc si mon éphémérie est bon, c'est vendredi 5 octobre.
C'est facile à retenir, c'est à 18h à l'heure de l'apéro. Donc on...
voilà, et on ne fait plus l'apéro avec autre chose que du vin.
Oui, ça c'est
ça du cerf, place du foirail.
Voilà.
Et après, notre association va définir dans sa première assemblée, le montant de l'adhésion. Mais il faut savoir que les vins ainsi que l'auberge espagnole, tout ça c'est pris en charge. Donc ça ne coûte rien à la personne qui va se joindre à nous. Et c'est dans un climat tout à fait convivial, donc de bon échange.
Il peut amener un petit cabécou quand même. Ouais.
Alors il n'y aura pas que du cabécou parce que nous on a de très bons fromages de brebis, de vaches, etc. Et pas de cheval dessus.
La première bouteille qui va être dégustée, qu'est-ce que vous allez ouvrir comme première bouteille cette saison ?
Tu parles de maintenant, là ?
Vas-y, Guy, sors les cartouches.
Je pense qu'on va quand même peut-être démarrer avec du beau, notamment des vins qui ont été primés lors du dernier forum des vins du mois de juin. Je suis persuadé qu'on va faire l'ouverture de Clos de Serre. Ça sera un vin de verre Agnan, donc quelque chose de très très agréable. Et ça nous permettra déjà de nous refaire un petit peu la langue, les papilles, parce que vous savez bien que la dégustation, ça démarre par là. Je suis persuadé qu'on ne prendra pas de rosé, parce qu'on aura tellement envie d'aller sur un bon rouge derrière. Alors, on offrira bien sûr ou un Pic Saint-Loup, pardon, ou un Coston. Alors, un Pic Saint-Loup, ça sera certainement le domaine de Pêche-Thor, quelque chose comme ça. Et puis en blanc, moi j'aimerais bien un petit Viognier, juste pour déguster les gâteaux qui se font maintenant aux amandes.
Bon, merci beaucoup Guy Saleil de tout ce...
Et bon appétit.
Et bon appétit à ceux qui nous écoutent, effectivement. Alors, on vous excuse puisque vous devrez quitter dans quelques minutes notre studio. Donc, merci beaucoup de
laisser les bouteilles en ensemble.
D'être venu.
on les donnera à nos invités.
Alors, si la technique va bien, ça sera Yael Naïm pour New Soul.
Je suis jalouse à en faire trembler les gens. À faire trembler mes jambes, j'ai plus qu'à plonger en silence. Je pourrais flotter inerte, tu t'en balances. Et ça me rend, ça me pourrit. Ça me rend dingue, ça me fout en l'air. Quand je sais que tu t'envoies en l'air, de l'air, de l'air, de l'air. Je savais pas, j'imagine tout, c'est encore pire. Tu pourrais tomber amoureux, recommencer une vie à deux. Plus tu la désires et plus j'expire. Et ça me rend, ça me pourrit. Ça me rend dingue, ça me fout en l'air.
FM Le Mag.
Ah oui, non, mais avec plaisir.
Nous retrouvons pour ce mag de 48 FM. Nous sommes toujours en direct de la place au blé, donc on a eu un petit souci technique et vous avez eu Mademoiselle K à la place de Yael Naïm. Mais tout va bien.
Et que fait Chewbacca 2 quand...
Ouais, voilà. Non, en plus, on a eu des soucis déjà la semaine dernière, donc tout va bien. Mais voilà, bon, il y a des petits réglages, mais tout ça va s'améliorer, bien entendu.
Mais le vin était très bon.
Oui, oui, on a pu déguster.
Voilà. Et les plâtres pas trop secs.
J'ai bien senti la violette.
Le pionnier était vraiment super bon.
Ouais, voilà, c'est du Sainte-Cécile. Hein,
bon appétit, messieurs, dames.
La pause musicale aurait dû être plus longue.
Voilà. Bien, alors on reçoit dans cette page culture Thierry Arnal, directeur du théâtre de la Mauvaise Tête, sur la saison culturelle de Marvejols. Donc elle commence ce vendredi à partir de 18h30 à la salle polyvalente de Marvejols. Alors simplement pour vous présenter qui est Thierry Arnal, je lis sa biographie sur le site internet du TMT. Après une formation au Conservatoire National de Région de Clermont-Ferrand, il reprend la compagnie du Théâtre de la Mauvaise Tête en 1991. À la fois programmateur, comédien et formateur, il joue dans la plupart des créations de la compagnie pendant une quinzaine d'années dans toute la France et en Roumanie, Angleterre, Trinidad et en Chine, où il est vénéré comme un demi-dieu. Parallèlement et même perpendiculairement, il intervient en atelier au collège et lycée. Depuis 2003, il prend la charge de la direction du TMT et se fait donc appeler maître, gaspille l'argent public en repas fastueux. Mais il prend également en charge la programmation du TMT et sait se servir d'un tableur, ce qui en fait un directeur crédible. En 2011, il se débarrasse enfin de son acolyte Fabrice Andrivon et peut dorénavant laisser traîner sur son bureau ses stylos sans les capuchons. Voilà, belle présentation.
Bah ouais, je crois que...
Il n'y a rien d'autre à dire.
Je te remercie, Guillaume, d'avoir lu ce CV en direct. Merci.
Bon, non, mais ce petit extrait donne le ton aussi des magiques newsletters du TMT qu'on peut lire tout au fil de l'année. Alors, tu nous diras tout à l'heure comment faire pour s'y abonner. Mais peut-être, avant de parler des newsletters, on va peut-être s'intéresser à cette nouvelle saison. Et alors finalement, quel est l'esprit, quelle est la volonté de montrer dans le cadre de ce programme prévu pour 2012-2013?
On est, je dirais, dans la direction habituelle de la programmation du TMT, hein, avec toujours ce besoin et cette envie et un peu ce sacerdoce de proposer au public un travail sur l'écriture. L'écriture contemporaine, donc qu'elle soit au niveau du théâtre, de la danse, du cirque, de l'écriture poétique, voilà. C'est vraiment la base du choix des spectacles, c'est cette approche de l'écriture, voilà, qu'on peut trouver aujourd'hui dans différents arts, et de le mettre un petit peu en avant, et d'amener le plus de monde à se confronter à cette écriture, qui nous parle de la vie, je dirais, de tous les jours, de ce qu'on peut vivre chacun chez soi, ou en groupe, ou... Voilà, avec des thèmes très, très différents.
Alors, est-ce que le visuel de la plaquette est représentatif aussi de ce qu'on va trouver?
On voudra des explications quand même. Hein.
On vous le décrit, c'est un piment finalement dans la peau d'une banane. Hein.
Je dirais même moi qui pénètre dans une banane sans dire long sur la programmation.
Je veux dire, tu abuses un peu de la dégustation du vin. Non, je crois que ça laisse aux gens un petit peu, à eux de trouver un petit peu l'interprétation. On est surtout, nous, dans la continuité des autres plaquettes, c'est-à-dire il y a le côté à la fois sucré et le côté un peu plus pimenté. Donc là, c'est la version la plus rapide qui saute à l'œil. L'année dernière, on avait des petites fleurs avec une scie circulaire, on a eu l'hameçon avec des plumes, voilà. Donc c'est toujours ce petit côté un petit peu piquant que tu as retrouvé dans mon CV ou dans les didascalies, voilà, c'est toujours...
Et ça se retrouve dans la programmation ?
Oui, je crois que c'est aussi à l'intérieur des spectacles, on peut retrouver à la fois ce côté qui est plus doux, le côté émotion, et sur d'autres spectacles...
Humour, quelque chose de... c'est ça ? Le décalage.
L'humour aussi, ouais, le décalage aussi, bien sûr. Avec des fois aussi quelque chose de plus fort, hein, qui va nous toucher en fonction des sujets, mais qui peut être plus grave. Mais en même temps, avec toujours. Voilà, on n'est pas là non plus pour attrister les gens, et voilà, mais simplement discuter, et puis provoquer aussi des rencontres et des discussions. C'est surtout ça, c'est que après chaque spectacle, j'espère toujours qu'il y a un temps de discussion, de rencontre entre le public, avec le public et les artistes. Et puis voilà, la plaquette, elle pose question aussi. Ce visuel, c'est retrouver ça aussi dans les spectacles, effectivement.
D'accord. Donc comment vous faites en fait cette programmation? Parce que ça a l'air un savant mélange à la fois de sucré et de pimenté.
Oui, c'est ben comment on fait, c'est enfin tu es bien placé pour le savoir d'ailleurs, Nicolas. C'est de voir beaucoup de spectacles.
Ça c'est important.
Oui, c'est ben c'est pour moi.
C'est la base.
C'est la base. Il n'y a pas d'autre solution, c'est que de voir des spectacles, de rencontrer des compagnies, d'aller échanger, de suivre les projets de création, de prendre des temps de discussion tout simplement autour d'une table. Alors des fois quand il y a un petit verre de vin, c'est pas plus mal, mais voilà, discuter, de rentrer dans le projet de la compagnie ou d'un autre. Ou d'un artiste et d'essayer de l'accompagner. Et puis
oui, parce que là, ta particularité, c'est quand même lié à l'écriture contemporaine. Donc, il n'y a pas seulement le visionnement de spectacle, il y a aussi la partie écrite, la partie...
D'accompagnement. Le projet peut partir d'une rencontre avec un auteur ou d'un artiste qui a envie de travailler sur la dernière écriture de tel ou tel auteur. Voilà, ça fait partie du choix aussi, effectivement.
Ouais, des auteurs comme Sylvain Levet, je pense qu'il y a Jean-Marc Bourde, des gens qui écrivent et qui sont à la fois, pour certains auteurs, comédiens, metteurs en scène.
Oui, tout à fait, on a ce mélange-là. Alors soit voilà, c'est un auteur qui va simplement écrire le texte, ou alors ensuite c'est un travail qui va se faire en complément avec le metteur en scène, les comédiens, un travail sur le plateau, hein, ça peut exister, c'est-à-dire où tout est mis en commun, ou alors le texte qui est déjà écrit et puis quelqu'un s'y attelle dessus. Mais c'est vraiment voilà, à partir de cette rencontre-là que la programmation se fait. Et puis on essaye de créer un petit fil sur l'ensemble de la saison.
Alors quels sont les rendez-vous, quels sont les, je sais pas, les peut-être des coups de cœur, des
spectacles à ne pas louper.
Voilà, les incontournables. C'est... Ah, j'ai posé la même question à Nicolas il y a quelques semaines maintenant. Donc voilà.
c'est très difficile de sortir un ou deux ou trois spectacles, hein, parce qu'ils ont tous été choisis, ils sont tous là. Donc oui. c'est que pour nous et on espère pour le public, ils sont tous très intéressants à voir. Donc c'est compliqué d'en sortir un. Comme ça, je crois qu'il faut prendre le temps de lire la plaquette, de lire un petit peu ce qui est dit sur chaque spectacle et que chacun puisse trouver ce qu'il a envie d'aller piocher un petit peu là-dedans et d'être curieux surtout aussi. J'ai pas de coup de cœur là comme ça parce que je veux pas attirer plus sur un spectacle que sur l'autre, ça serait dommage par rapport aux équipes, mais moi voilà, il y a un spectacle que j'ai découvert à Bruxelles qui s'appelle Twelmen, c'est un spectacle de danse, et alors c'est peut-être parce que mon âge avance aussi, mais c'est deux danseurs superbes, un de la danse classique puisqu'il était soliste à l'Opéra National du Rhin, et puis un autre danseur qui lui a travaillé plutôt avec des platelles, avec des chorégraphes très contemporains. Ils se sont retrouvés, ils parlent de leur âge, 50 ans, qu'est-ce que c'est pour des danseurs de se confronter encore sur un plateau de danse face à un public avec l'âge qui est là, avec l'embonpoint, avec le corps, avec les rides, avec le physique qui ne va plus à la même vitesse. Ils se sont rencontrés et ils ont décidé de créer ce spectacle. Voilà. Mais on dépasse ce problème de l'âge et ça nous emmène très loin. Et y a une émotion qui est extraordinaire. Voilà. Bon, je prends celui-là. En théâtre, il y a La grand-mère des mammifères, un texte de William Pellier qui est extraordinaire, qui était sûrement un texte voilà, qui a... beaucoup de compagnies ont dû se dire, on ne peut pas, c'est super, mais comment on va monter ça? Comment on peut dire tout ce qui est dit dans ce texte-là? Voilà, cette compagnie a réussi à le faire de belle façon. Voilà, ça c'est un autre exemple. Un autre auteur qu'on accueille, Rémi Cecchetto, qui viendra pendant quatre semaines en résidence à Marvejols aussi, rencontrer des gens différents, soit d'un centre, soit des gens comme ça un petit peu pris au hasard, dans les écoles, et qui écrit comme ça sur le territoire marvejolais tous les jours. Il rencontre les gens, il écrit avec eux, et en fin de semaine, on fait une restitution avec cet auteur. Voilà,
à qui s'adresse votre programmation, plus particulièrement? Est-ce qu'il y a un public que vous ciblez? Comment vous considérez le public? Et de façon plus générale, comment vous concevez le fait de faire sortir les gens vers du spectacle vivant?
Voilà, je crois que c'est le plus difficile, c'est ça, c'est de se dire comment aller provoquer cette envie à des gens. On est tous confrontés à ça, hein, à sortir de chez soi, de pas allumer la télé, de se dire allez, je vais aller voir des artistes sur un plateau, de voir ce qui s'est passé. Donc c'est là où c'est le plus difficile. Donc je pense pas qu'on cible un public particulier. On cible la curiosité et cette envie-là, c'est tout. Après, il y a des spectacles qui s'adressent plus à du jeune public. On en a dans la saison. Plus à un spectacle familial, enfin un public familial à certains moments. Peut-être à d'autres moments, un public un peu plus âgé. C'est vraiment, sur l'ensemble de la saison, on essaye d'ouvrir à un public le plus large possible. Voilà. Et je crois qu'après, j'aime pas trop les cloisons, j'aime pas trop, alors parfois l'âge, voilà, le nécessite, hein, mais je crois que tous les spectacles de la saison sont faits pour tout le monde. Voilà. Je crois qu'il faut venir, essayer, discuter et recevoir ce que les artistes nous proposent.
Il faut être curieux.
Oui, pour moi, vraiment, cette curiosité, c'est ce qui est le plus important. C'est un petit peu comme tout à l'heure, même pour le vin, j'ai beaucoup aimé ce que l'invité a dit tout à l'heure, c'est d'avoir cette curiosité-là et cette envie de présenter ce qu'on aime. Je crois que les spectacles, enfin de boire le vin qu'on aime, c'est des spectacles qui sont dans la saison, c'est que des spectacles qu'on aime. Et donc c'est de partager ce moment-là. Voilà, alors, même si des fois on se dit, tiens, ça c'est pas
C'est très œcuménique ce que tu nous dis là. Sacerdoce, j'ai relevé plusieurs mots comme ça.
Aïe, ça me rattrape, alors j'arrête de suite.
Ouais, j'ai l'impression.
Et la jauge, alors là, on a eu une invitation, maintenant on aimerait savoir, la salle, c'est combien de places? Parce que alors, j'ai l'impression qu'on va se pousser là. Hein.
On travaille sur deux endroits sur Marvejols. Il y a tout d'abord la petite salle qui est une salle de 68 places, donc qui est un petit théâtre de poche, donc pour les soirées plus intimes, pour les textes qui demandent peut-être plus cette proximité-là. Et puis, on travaille sur la salle polyvalente de Marvejols qui accueille, alors ça va d'une jauge de 120 personnes à 200 personnes. Voilà, avec un plateau là beaucoup plus grand qui fait du 12 par 12. Donc, qui nous permet aussi d'accueillir des spectacles avec des corps ou avec des formes contemporaines plus importantes.
Et est-ce qu'il y a une prolongation au-delà de lorsque vous interprétez un écrivain ou que vous prenez une pièce connue, etc. Est-ce que vous laissez une part d'improvisation au-delà de cette rencontre?
C'est toujours ce qui est souhaité pour nous, et c'est ce qu'on voudrait développer au TMT, c'est de pouvoir, autour du spectacle, et éviter les programmations, ce qu'on va appeler de la programmation sèche, c'est-à-dire la compagnie arrive la veille, monte son décor, joue le lendemain, et repart le jour suivant, voilà, où simplement il y a une présentation du spectacle, et puis c'est tout.
Ce qu'on veut, si elle est bien arrosée des fois, parce qu'elle peut être sèche, mais bien arrosée.
Ça dépend. Les après-spectacles, c'est soirées. Un peu lourd. Mais non, c'est qui est justement cette rencontre. Que le monde de l'artiste et des créateurs ne soit pas simplement là pour montrer, voilà, j'ai fait ça, je le montre
un
au travail public.
Un travail à un moment donné.
Ouais. Voilà, et qu'il n'y ait pas de retour. Voilà, non, c'est de créer ces moments d'échange, de temps où on puisse rencontrer, on développe aussi beaucoup de résidences, ce qui permet aux habitants de Marvejols de rencontrer, de venir voir les étapes de travail dans la salle, pour après, voilà, là, actuellement nous avons une compagnie qui répète depuis 10 jours, et la création sera présentée au mois de février. Donc il y a tout un travail avec les écoles qui viennent voir les étapes de travail, avec des personnes aussi, du public, des petites sorties de résidence, pour amener ensuite plus de public lors de la présentation.
D'accord, mais tu dis souvent « on », « nous », c'est qui ? C'est « on » et c'est « nous ». Alors... Parle-nous un peu de ton équipe, parce qu'on sait bien que tu es un demi-dieu, c'est un sacerdoce, et qu'on t'appelle maître, mais
voilà,
sinon...
C'est ça. Alors, c'est une petite équipe, hein, toute petite, on est, on va dire, à la base, on est
10,
trois personnes. donc Abdel, qui me seconde à tout ce qui est secrétariat, comptabilité, et puis site internet...
C'est un emploi jeune,
non ? Non, Abdel est très vieux maintenant. Non, Abdel a commencé en contrat qualification il y a de nombreuses années, et puis il est permanent du théâtre de la Mauvaise Tête. Donc voilà, et ensuite Peter Ware, qui est notre régisseur, technicien, homme à tout faire,
artiste
bricoleur, et de par ailleurs, lui est connu aussi sur le département et hors département pour toutes ses créations. Ouais, c'est un artiste à découvrir, voilà, c'est un sculpteur aussi. Donc voilà, souvent on l'utilise aussi à d'autres fins que régisseur. Donc voilà, ça c'est la base. Et ensuite, depuis 2 ans, je travaille en relation assez étroite avec un artiste qui s'appelle Jean Marbourg, ancien metteur en scène et directeur artistique de la compagnie Labyrinthe. Voilà, j'aimerais l'intégrer de plus en plus à l'équipe pour un temps, pour développer ce qu'on appelle l'artiste associé, c'est-à-dire du fait du départ de Fabrice, hein, qui nous les a lâchement abandonnés.
Bonjour Fabrice, si voilà. Tu nous écoutes, tu
on,
nous
on l'embrasse. Oui, en plus, lui, il avait une plus belle voix que moi à la radio, c'est terrible. Donc voilà, pour ramener encore de l'artiste, parce que voilà, je veux pas que le TMT soit simplement voilà, un directeur et autres personnes qui font ses choix, mais d'être toujours confronté au langage de l'artiste et de profiter de cette expérience-là, de ces envies-là, qui parfois sont difficiles, parfois sont pénibles, mais voilà, d'aller se confronter à ça.
C'est pas un peu compliqué de partager? Parce que tu parles beaucoup de partage. Moi, je trouve ça super, mais c'est pas un peu compliqué de partager une programmation, de partager des choix
Ouais, je fais le malin au micro, mais bon, voilà, c'est quand même après, derrière, c'est moi qui décide. Voilà, hein, c'est pas maître pour rien.
En gros, vous avez tout compris, c'est lui le patron.
Oui,
et
oui,
derrière, à un moment, il faut. Mains qui bossent.
il faut trancher, mais même quand tu fais ta programmation, tout à l'heure je parlais de moments de discussion avec les compagnies, même si ça ne va pas toujours au bout, mais il y a quand même toujours ce rapport-là, et cette discussion et ces recherches, on les fait en commun.
Alors le programme de cette soirée de vendredi, parce que ça commence tôt, ça commence à 18h30, et il y a l'air d'y avoir plein de choses au programme. Alors quels sont les rendez-vous pour ce vendredi 18h30.
Alors, on vous propose à 18h30 de se retrouver à la salle polyvalente de Marvejol, et nous aurons la chorale du Truculent qui nous fera un petit récital. C'est une chorale qui est voisine de Marvejol puisqu'ils sont localisés sur Grèze et les environs. C'est une chorale familiale, voilà, ça va du tout petit qui doit avoir 4-5 ans, je ne dirais pas l'âge des plus âgés parce que sinon ça ne passera pas. Mais voilà, donc c'est un esprit très sympa, c'est une chorale que je suis depuis quelques temps et ça me faisait plaisir de les avoir là pour l'ouverture, pour lancer la saison. Et ce récital sera suivi de discours officiels.
La traditionnelle présentation.
Que du beau monde.
Voilà.
Alors il y aura qui
que j'espère qu'on... J'ai pas encore toutes les réservations, je peux pas te dire, Nicolas. J'espère que le sénateur sera présent. Si tu le croises, tu peux lui transmettre mon invitation.
Monsieur le sénateur, si vous écoutez entre midi et deux, vous avez une invitation pour Marvejol.
Voilà, avec plaisir. Et ensuite, une petite présentation de la saison, mais très simple, parce que c'est un moment très compliqué et puis un peu pesant, je trouve. Voilà, je crois qu'on essaye dans les plaquettes de bien expliquer, donc on n'ira pas très loin sur la présentation, mais ce qu'on dit aux gens, c'est voilà, venez nous rencontrer, venez discuter, on peut vous parler très bien des spectacles, de chaque spectacle en direct, voilà, ou sur le site, vous passez au bureau quand vous voulez. Nicolas connaît quelques spectacles, je suis sûr qu'il sera un plaisir aussi de les accueillir et de vous en parler. Et ensuite, un petit apéritif dînatoire avec du vin, j'espère.
J'ai pris des notes
là, tout à l'heure, ouais, je vais voir si ça passe au niveau budget. Si j'ai pas tout dilapidé. Voilà,
c'est encore un mot
ouais, difficile encore. Et donc, ensuite, à 20h30, soyons sérieux, Ivre d'équilibre, qui est un spectacle magnifique et familial pour lancer.
Ouais, qu'on a vu, c'est vrai.
Bon, écoute.
Voilà, et qu'on a beaucoup aimé.
Ah ben, je te remercie, Nicolas.
Et qu'on voulait programmer cette année, mais c'est mort puisque tu viens de le faire. Voilà. Donc tant pis pour ceux qui n'iront pas manger. Voilà. Alors comme on ne pourra pas le programmer, c'est un super scoop. En fait, comme on ne pourra pas le programmer puisqu'il est déjà passé sur Marvejol et que tout le monde l'aura vu, ceux qui voulaient le voir en fait ne pourront pas. Donc allez vite à Marvejol vendredi prochain.
Voilà.
Donc
réservé.
À 20h30 est réservé. Voilà, mais et tout que... ça, c'est payant, l'apéro dédinatoire, tout ça, on peut venir non?
Non, vous pouvez venir.
Alors, qu'est-ce qui est payant là-dedans?
Alors, le spectacle uniquement.
D'accord,
voilà, bonsoir. Les artistes, voilà, Pascal Rousseau. Il est en train de créer la suite de ce spectacle.
Tout
Nicolas.
À fait.
Donc, je t'invite à aller voir un peu la suite du travail. Et puis, peut-être on peut négocier que tu prennes le deuxième spectacle.
Ça peut être pas mal.
Hein, voilà, maintenant, ils sont en train de négocier leur programmation en direct sur 48FM.
C'est ça le partage, selon voilà. Le texte.
Exactement.
donc, le rendez-vous est pris pour vendredi.
Bah, n'oubliez pas donc, de réserver.
Voilà. Voilà. Donc, les réservations, c'est le numéro de téléphone, c'est ça?
04 66 32 40 82.
Voilà, pour avoir tous les détails de la saison, c'est sur le site internet www.lamauvaisetête.com.
Tout à fait.
Voilà. Attaché. Voilà.
Ouais, tout attaché. Et dans la petite brochure qu'on retrouve, j'imagine, un peu de partout.
Voilà. Bah ouais, on essaye de la diffuser un petit peu partout.
Alors, je pense qu'en plus, on fera des petits thèmes autour des différents spectacles qui sont proposés un petit peu partout, en Lozère et notamment au TMT.
Ouais, s'il y a toujours du vin comme ça, des gâteaux, quand vous voulez.
On ramènera
non,
du pâté.
Il n'y a rien.
On ramènera du pâté. Si
on n'a même pas un verre d'eau.
Si, ça, il y en a un. Non, juste pour terminer, parce que je vois Guillaume, t'es pressé.
Ah non,
c'est
mais...
la place à l'autre invité. C'est juste de dire, tout à l'heure, Nicolas parlait de partage, mais effectivement, je crois qu'on est sur un département où on peut veut partager les choses, et il y a de très belles saisons dans toutes les villes du département, que ce soit à Mende, que ce soit à Langogne, bientôt à Saint-Chély, à Florac, et j'oublie des endroits. Mais voilà, soyez curieux, on travaille quand même très souvent ensemble, on va voir beaucoup de spectacles, donc profitez de ça et n'hésitez pas.
Parce que rien ne remplace le spectacle vivant. Hein.
Et non, franchement, rien. Non, il y a quand même des émotions qu'on ne retrouve pas ailleurs.
Merci.
Beau, non ouais, oui, super, c'est super. Voilà. Merci beaucoup.
Tu feras un bon prêtre, je trouve. On t'a traité de demi-dieu.
Merci beaucoup, Thierry. Donc, l'inscription aussi à la newsletter, parce qu'on l'avait dit tout à l'heure, c'est sur le site internet.
Tout à fait.
Voilà, il faut le faire parce que vous verrez, vous avez un message très régulier et où, voilà, on s'amuse bien. Il y a aussi des possibilités d'abonnement pour les spectacles. Donc, voilà, n'hésitez pas.
48€ pour 5 spectacles. Voilà, tarif plein à 12€. Pour les plus de 12 ans, les étudiants, les chômeurs, 8€. Et les moins de 12 ans, 5€. Et tarifs spéciaux à consulter sur le programme.
Voilà, c'est certains spectacles qui sont soit offerts, soit un tarif réduit. Non, maximum, c'est toujours c'est vraiment 12€.
D'accord.
Ouais. Non, c'est plutôt les tarifs spéciaux, c'est à la baisse.
Ah, oh, c'est parfait.
Voilà.
Impeccable.
Il y a un truc qui baisse, profitez-en. Allez-y, sortez. Bon.
Merci beaucoup, on se retrouve juste après The Kings.
FM Le Mag.
Et bien, on se retrouve pour cette troisième page, et troisième et dernière page, donc une page liberté, égalité, citoyenneté, avec Romain Vidal de l'UDAF, et on va parler de l'aide aux tuteurs familiaux, mais peut-être. Avant de rentrer dans ce sujet qui est pas forcément simple comme ça, mais c'est aussi l'objectif de ce magazine, c'est d'avoir des sujets un peu plus légers, puis des sujets un petit peu plus de fond, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le rôle de l'UDAF, quels sont les services proposés par l'UDAF?
Tout à fait. Donc l'UDAF, c'est ni plus ni moins que l'Union départementale des associations familiales. Donc c'est le représentant des familles lausériennes au sein du territoire. Donc on va dire que l'UDAF va s'orienter autour de deux subdivisions. Vous allez avoir la partie qui est la plus connue, la partie des tutelles. Donc c'est tout ce qui est notre cher délégué à la tutelle, donc en lien direct avec le tribunal. Et vous avez la partie institution, dans laquelle je fais partie, qui va être donc tout ce qui est vie associative des associations familiales. La mise en place donc de notre site internet assez juridique, où on a essayé de donner une base d'informations la plus, si on peut dire, la plus vaste possible, tout en étant, en la vulgarisant, hein, parce qu'on tourne toujours autour des domaines juridiques et c'est pas forcément agréable. Et après, bon, un service qui fonctionne de plus en plus fort chaque année, le point info famille que je tiens, donc qui est du conseil juridique et social gratuit, au sein duquel vous allez avoir donc le service d'aide aux tuteurs familiaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
on va parler,
on est venu avec ça.
Voilà. Bon, alors, les tuteurs familiaux, les curateurs familiaux, ça veut dire que c'est une protection qui est mise en place. Et alors,
En gros, si on peut dire, voilà, il y a eu un très fort changement en 2007 avec le législateur qui a voulu faire la part belle aux familles. Voilà, puisque, bon, comme je vous disais précédemment, vous avez l'UDAF, mais vous avez également l'ATL et l'ATAL. Ce sont des organismes qui ont en charge des tutelles. Mais en 2007, le législateur a décidé que ce serait bien de donner la priorité aux familles. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un enfant qui va prendre en charge la tutelle, par exemple, de son père ou de sa mère, ou dans le cadre différent, ça peut être une maman qui va avoir en tutelle son enfant, ni plus ni moins. Donc on comprend relativement bien, parce que bon, souvent les personnes qui vont être mises sous curatelle ou tutelle, c'est des personnes qui connaissent un malaise à la fois physique ou psychologique, donc on va être plus facilement avoir envie de voir sa vie un peu gérée par quelqu'un de sa famille que par un étranger qui va être mandaté par un juge, qui va parfois faire peur à la personne qui est mise sous ce régime de protection.
Alors qui sont les personnes visées justement donc par ces protections?
Mais ça va être des personnes majeures qui vont pas pouvoir seules pourvoir à leurs intérêts, c'est-à-dire voilà, un jour ou l'autre, le vieillissement, la maladie fait que, mais dans les actes de la vie de tous les jours, c'est difficile, ça devient de plus en plus difficile, et même parfois on met sa propre vie en danger, et surtout on va retenir le côté financier, hein, des personnes âgées qui se retrouvent un peu à plus pouvoir gérer leurs conditions financières.
Tu parles de L'Oréal, non? C'est ça? En direct sur cette
radio. Ça a fait une très grande pub aux tutelles, ouais, tout à fait. Oui, mais c'est ni plus ni moins que ça. Hein. C'est, est-ce que je suis toujours capable ou est-ce que finalement, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un petit souci? Donc c'est vrai que souvent l'alerte se fait par la famille. Hein. C'est la personne
qui
a plus
de projet. Mais qui décide finalement, ouais, qu'on est capable ou pas, et sur quels critères? Parce que moi, je peux dire de ma mère aujourd'hui, t'es plus capable, fais-moi ton pognon.
Je sais pas, je vais pas sentir. Non.
Maman, tu m'entends?
C'est entouré. Non. Ça va être. Il va avoir. Vous avez une liste du procureur de la République, de médecins agréés, qui vont venir voir la personne, ni plus ni moins, qui vont juger si oui ou non cette personne est en pleine possession de tous ses moyens.
C'est ça.
Voilà, tout à fait. Et après, ça partira auprès du juge des tutelles qui décidera. Bon, après, on a trois niveaux. Vous avez la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Donc, en fait, c'est des degrés de protection plus ou moins importantes.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on entend par... Alors, je suis perdu dans mon texte, forcément.
Oui,
voilà.
C'est moi qui...
Non, c'est pas grave.
C'est voilà, quoi la curatelle entre la tutelle et la curatelle?
C'est ni plus ni moins que le degré. C'est-à-dire que la curatelle, vous allez conserver quand même des actes de la vie tous les jours. Vous allez pouvoir faire sans demander l'accord à votre curateur. La tutelle, c'est le régime le plus lourd. Vous êtes vraiment totalement encadré, si on peut dire. Donc, par exemple, la tutelle, ça va être le plus contraignant. La personne ne peut plus accomplir elle-même les actes de la vie civile. Donc, on comprend un peu mieux la difficulté. Donc, elle va être représentée en permanence par son tuteur. Pour chaque petite... Pour tous les actes de la vie quotidienne, administrative...
C'est-à-dire,
c'est quelqu'un qui aura... on appelle ça, par exemple, l'argent de poche, qui aura... on va contrôler justement. Mais bon, on est dans un régime de protection. Attention, la personne, elle se retrouve pas.
Ouais, elle peut quand même aller s'acheter un paquet de clopes ou un sandwich ou une bouteille de Viognier pour, par exemple.
Oui, pour sentir la violette. Et aller voir un petit spectacle à Marvejol après. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais on va avoir le côté, les organismes. Le but, c'est pas que la personne se retrouve dans une prison. Voilà. Déjà, c'est souvent des personnes, en plus, parfois, qui, du coup, d'un handicap et. On va pas venir là-dessus, mais bon, on connaît les pensions des handicapés, des choses comme ça, c'est très léger, donc il faut quand même avoir la possibilité qu'elles vivent au mieux en étant contraintes. Voilà, ça va se retrouver. Et donc, moi, ma mission, donc là, on parlait du tutelle, mais moi, la mission que j'ai, c'est je vais vous aider. Alors, il y a la possibilité de passer, lorsque vous le souhaitez, dans les locaux de l'UDAF, rue de la Petite Roubérolle. Parce que le jour où on devient tuteur de sa maman ou de qui que ce soit, c'est pas facile. Il va avoir des choses à faire.
On sait pas du tout effectivement, tout moi, si ça devait m'arriver, je ne saurais absolument pas quoi faire.
Donc vous avez quand même
comment le gérer.
Le juge des tutelles ou ces personnes-là qui vous aident. Mais voilà, il va avoir des moments où, oulala, comment je fais ? Il y a un inventaire à faire de tous les biens de ma mère. Chaque année, il faut que je rende un rapport. Qu'est-ce que je peux faire ? Ben voilà. Nous, on a mis en place ce service gratuit, tout simplement. Vous l'avez également auprès de l'association de tutelleurs de Lozère qui le fait également. Voilà. Hein, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de mesures de tutelle en Lozère. Et de plus en plus...
Ça représente quoi ?
On va dire à peu près...
Pour 100 familles, il y a combien en proportion de tutelle ? Vous avez un chiffre à nous donner ?
Moi, je dirais qu'on doit être à peu près autour de 1300 tutelles sur le département. Sur une population de, je sais pas, les derniers recensements, voilà, 78 000. Allez. Et ça va aller
78.
De...
78, oui.
Si, on va bientôt remplir le Stade de France, hein. Plus que 2000.
Avec tous les gamins que tu as. en plus, ils sont pas comptabilisés. Les enfants, si vous m'entendez, mettez votre père sous tutelle, appelez Romain Vidal à l'UDAF.
Oui, je vais vous donner un petit coup de main. Non, mais voilà, ça va être sur tout ça... Parfois, c'est pas grand-chose, une petite crainte. Et parfois, c'est un peu plus lourd. Comment je peux faire un inventaire ? Donc, vous avez le service auprès de l'UDAF et vous avez également l'ATL. Parce que le but, c'est pas de chacun...
L'ATL ?
Oui, l'association tutélaire de Lozère.
D'accord.
Donc, il y a la place large. Vous voyez, hein, quand on dit le nombre de mesures qu'il y a, voilà. Et puis, bon, on a la chance d'avoir un département à visage humain et de pouvoir encore mettre en place des permanences et recevoir les gens sans qu'il y ait un délai... très très important. Et ça, c'est très appréciable.
Peut-être ce qu'il faudrait dire aussi, c'est que la tutelle, c'est pas une mesure définitive. C'est-à-dire qu'elle est donnée pour un temps donné. On peut retrouver ses moyens et
oui,
et pas se faire spoiler.
Il y a certains cas.
C'est ça.
Il y a des certains cas. Oui, tout à fait. Après, vous aurez une mesure de reconduction. Et ça va être le juge des tutelles qui verra en fonction de l'évolution de la personne si on reconduit. Est-ce que, par exemple, vu l'avancement de la personne, on va passer sur une curatelle ? Voilà. C'est après la curatelle, vous avez des curatelles saines renforcées.
D'accord.
Voilà.
Et ces décisions juridiques, elles sont prises en Lozère ? Elles sont prises. Est-ce qu'on a un juge des tutelles au tribunal de Mende ?
Ça dépend. Des fois, c'est pris à Tombouctou. Non, tout est pris.
Ça dépend des cas lourds. Voilà.
Non, mais c'est pris, oui, c'est pris auprès du tribunal de Mende. Voilà, oui. On a
vous accompagnez aussi les
familles ? Non, non. Le rôle, il est vraiment dans l'aide. Le soutien, c'est la personne qui, d'elle-même, soit par téléphone, soit pendant nos permanences, va passer.
Donc après, c'est le tuteur qui fixe après les règles ou le fonctionnement ou les montants, tout ça ? Non, ça marche comment ?
C'est-à-dire, le but du tuteur va être de gérer au mieux la vie de la personne. Voilà. Et il va rendre chaque année, voilà. Et chaque année, il rendra un rapport. Bon, qui fait souvent peur, mais qui finalement n'est pas si effrayant que ça à faire, pour donner l'état des comptes bancaires, les biens.
Ouais, mais voilà. Ça nécessite, je trouve que ça nécessite des compétences quand même. Est-ce que dans une famille, on trouve à chaque fois des gens capables de ça ?
Il y a beaucoup de personnes qui disent non, Je oui, c'est ça, ouais, pas.
Parce qu'il y a une distance.
Oui, 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 c'est personne n'est imposé à devenir tuteur de sa mère.
Et alors,
c'est pour ça qu'il y a les organismes de tutelle.
Et c'est rémunéré, ça?
À votre avis?
Bah, si c'est professionnel.
Non, quand c'est de la tutelle, quand c'est de la tutelle familiale, non.
Ah oui, oui, d'accord, quand c'est de la tutelle familiale.
Après,
mais,
nous,
mais
oui.
Si c'est de la tutelle extérieure.
Oui, 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 oui.
Ah oui, donc c'est rémunéré. Ouais.
C'est-à-dire que, en fonction. Là, ça va être un calcul en fonction. Non, non, pas tant que ça. Moi, je viens de Montpellier, en plus, à la base. Et je... Non, non, c'est juste... Je pense qu'il y a surtout une fibre... voilà.
Humaine.
Sociale, ouais, ouais, ouais.
Sociale et humaine.
Voilà. Je veux dire, on est travailleurs sociaux. Et... Bon, c'est sûr que j'aurai pas le yacht de Madame L'Oréal, mais le soir, je crois que je suis content.
Alors, parlez-nous de Liliane. Elle en est où? En curatelle? En tutelle? Et à quel niveau, s'il vous plaît?
Peut-être pas non plus parler de la situation personnelle de quelqu'un, c'est pas très très...
On n'a pas dit le nom, on a juste dit le prénom, Liliane.
Non, non, mais voilà, non, le but c'est ça, c'est le rapport humain, que la personne vive au mieux, et dans mon cas à moi, ça va être d'aider les gens à ce qu'ils ressortent, ils aient mieux compris le but de la tutelle. Mais bon, voilà, faut pas se sentir obligé, hein, si on sent pas qu'on a la possibilité de devenir le tuteur. Il y a des organismes, en Lozère vous en avez trois, vous avez l'UDAF, l'ATL et l'ATAL, et qui sont, voilà, malgré quelques reportages parfois qui passent, comme quoi il y a des vols, je me porte garant personnellement que non,
ouais,
ça va.
C'est des épiphénomènes, parce que je pense que les gens ils sont quand même très respectueux de la vie des gens. Et...
Surtout que les mesures augmentent, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de mesures, donc les tuteurs se retrouvent avec de plus en plus de mesures et malheureusement, de l'autre côté, les fonds, ça baisse de plus en plus. Donc on est une situation, on n'est pas les seuls, c'est partout pareil, mais c'est pas facile. C'est pas facile.
Peut-être que pour terminer ce sujet, peut-être que vous pouvez nous rappeler
les coordonnées,
les contacts pour justement, bah, voilà, si on est confronté à cette situation.
Alors, je vais vous donner une exclusivité, vous voyez, aujourd'hui. Ah. Donc les permanences sont toujours amendes. Comme l'année dernière, et les années précédentes, donc rue de la Petite Roubérole, c'est en face de la MGEN, à l'UDAF. Donc elles sont les lundis et mercredis après-midi. Vous pouvez me contacter tous les jours, sauf le vendredi après-midi, au 04 66 65 79 87. Et l'exclusivité, c'est qu'on va faire une permanence à Marvejols maintenant, auprès de notre antenne, tous les premiers mardis du mois. De 14h à 17h, et on se trouve à de l'Esplanade à Marvejols.
Oui, voilà.
Sinon, 3615, Romain Vidal.
Non, sur Facebook, mais je viens de me marier, donc alors.
Ah, d'accord, on va éviter alors.
Donc, si je veux mettre Nicolas sous tutelle, je viens à Marvejols.
Tu passes me voir après.
Okay.
Et t'amènes une bonne bouteille de vin.
Parce que quand je vois comment il gère certaines choses, je m'inquiète un petit peu pour sa famille.
Et il y a un site internet où on peut trouver.
Oui, www.undaf48.fr.
D'accord. Et sur le site, il y a les procédures, il y a un petit peu des choses
expliquées
ou c'est...
Oui. On a essayé de le faire le plus complet. Oui, oui. Il y a beaucoup d'informations, pas que sur la tutelle, hein, parce que en dehors de l'aide aux tuteurs, comme je vous dis, j'ai le but de conseiller juridique et social. Donc, je fais du conseil juridique gratuit.
Mais votre formation en tant que consultant, c'est quoi?
Ma formation personnelle?
Oui, tout à fait, pour savoir.
En fait, moi, j'ai fait 4 années de fac de droit à Montpellier. Voilà. J'ai une maîtrise de droit.
D'accord.
Et j'ai atterri à Mende par le biais de ma femme qui est au Trésor public. Voilà.
Bonjour madame.
Bien, mais donc effectivement, on aura peut-être l'occasion de se retrouver dans ce magazine pour aborder les autres volets de cette activité de conseil, d'information à destination des familles. Alors, on espère que ce magazine, pour conclure, on espère que ce magazine donc, vous a apporté des informations intéressantes, que vous avez envie de déguster du vin, d'aller aller assister à un spectacle, participer, rencontrer les auteurs, les acteurs,
partager.
Charmante en plus.
et puis d'avoir aussi eu quelques informations importantes si vous êtes confronté à cette situation de tutelle ou de curatelle par rapport à vos proches. Vous pouvez retrouver 48FM sur Internet, sur 48fm.org. Vous y retrouverez le podcast de l'émission, sans doute à partir de demain, on va dire. Et puis, vous pouvez aussi réécouter cette émission jeudi soir à 18h11. Vous pouvez l'écouter aussi sur le site internet. Je vous rappelle que vous pouvez suivre aussi 48FM sur Facebook, 48FM Mende Lozère, et sur Twitter, @48FM Mende. Merci de votre participation à tous.
Merci à vous.
Merci. Et à bientôt. Donc, rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités.